texte.
Con.
Finement.
Con.
Troll.
Con.
Travention.
Au con.
Con.
Conclusion.
Contestons les amendes.
Constituons des caisses de soutien.
Quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, et quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessus de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours. Et lumière. Ma mère, elle m'écoute toujours quand je suis dans la mer. Elle sait quand je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours. Dans les yeux de ma mère, dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Ma mère est là, et quelque chose. Quelque chose dangereuse, oh, et quelque chose d'une allumeuse, oh, et quelque chose d'une emmerdeuse. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
Et voilà, grosse dédicace à Mamina, Nouchmi et Tom. Voilà, big up.
Bra, bra.
Micro, micro,
micro, micro, micro.
Et bah, du coup, merci aussi au ministère de la discipline et du contrôle social. Maintenant, on sait que les Que ça existe. Promenade. Ah oui, déjà, on sait que ça existe, voilà.
Mmh. Bah, c'est créé, ça, à force de ne pas regarder la télé, de ne pas écouter les radios.
Écouter
que des radios alternatives.
C'est ça, non, mais on perd le fil de la réalité. On se retrouve complètement déboussolé.
Alors, petit examen surprise, est-ce que vous avez regardé l'album de Johnny Hallyday qui s'appelle Hamlet Hallyday, en parlant de radio alternative? Moi, j'ai regardé. J'ai vérifié, c'est un vrai album. C'est une vraie chanson de Johnny.
Apparemment, ça a fait un flop.
Un flop.
Ouais. Nous, on a adoré.
Et est-ce que vous avez lu depuis?
Des mots.
J'y pensais à chaque mot. Des mots.
Et ben moi, dans ce communiqué du ministère de la discipline et du contrôle social, il y a un mot qui m'a un peu interpellée, donc j'étais allée voir, c'est la dromomanie. Donc une affection psychiatrique. Et alors effectivement, je ne savais pas, mais c'est la définition de la dromomanie, c'est impulsion à se déplacer. Elle est aussi appelée impulsivité migratrice. Et donc c'était quelque chose qui était effectivement considéré comme une affection psychiatrique même au début du 19e siècle, hein, et qu'il n'y a qu'au 20e siècle qu'elle était un peu sortie de la liste de toutes les pathologies psychiques. Et donc, c'était quelque chose qui était traité. Et on peut, par exemple, consulter les travaux et des fiens du psychiatre Emmanuel Régis, bien connu pour son célèbre manuel de psychiatrie, dans lequel on peut lire, par exemple, enfin, c'est pas dans le manuel qu'on peut le lire, mais dans un article qu'il a écrit sur Jean-Jacques Rousseau. Donc, il écrivait « Il existe une tendance en quelque sorte constitutionnelle à la figure impulsive à la dromomanie, tendance souvent héréditaire, précoce, durable, paroxystique, donnant lieu durant les crises à un état mental particulier s'adaptant aux complications délirantes intercurrentes lorsqu'il en survient. » Et donc, apparemment, il n'y a pas d'autre exemple qui illustrerait mieux cette pathologie que la figure de Jean-Jacques Rousseau, qui aimait beaucoup se balader. Et d'ailleurs, bon, à part lui, il y avait aussi un certain nombre d'autres écrivains ou de poètes qui ont été qualifiés de dromomanes, comme Gérard de Nerval, par exemple. Et j'avais noté quelques...
On peut citer aussi Laurent Wauquiez. Big up à la technique. On peut citer aussi Laurent Wauquiez qui de temps en temps fait le dromomane en allant au Mont Gerbier de Jean, non? C'est pas ça qu'il fait? Il fait une fois par an et il va se promener. Ça y est, micro vert, tu peux rigoler. C'est
bon. Oui, on le voit souvent se promener avec son enfant sur les épaules et. Justement,
alors c'est ce qui était noté par le célèbre psychiatre Emmanuel Régis, c'est que l'impulsivité migratrice, la dromomanie, était héréditaire. Et par exemple, justement, c'est beaucoup intéressé à la famille de Jean-Jacques Rousseau, qui était mais absolument, qui tenait pas en place. Il disait qu'il n'était pas facile de rencontrer dans une famille plus d'instabilité, de migration, d'expatriation et de disparition. Et donc c'est quelque chose qu'on hérite de ses parents et qu'on garde pendant toute notre vie. Et je voulais vous lire quelques citations de ce psychiatre parce que c'est très édifiant. Et puis comme maintenant on sait que c'est quelque chose de réprimé par notre nouveau régime, il faut apprendre à reconnaître les dromomanes et éventuellement à les dénoncer.
D'ailleurs, big up à la dame qui marche, elle se reconnaîtra et peut-être d'autres la reconnaîtront aussi. Gros big up.
Big up à la dame qui marche. Ça, il ne faut pas le dire à l'antenne quand même. Et donc, voilà quelques extraits. Chez les déambulateurs nés dont je parle, la tendance à la fugue, héréditaire ou non, est habituellement très précoce. J'ai cité entre autres le cas d'un jeune homme chez lequel cette tendance avait débuté à l'âge de 3 ans. J'observe en ce moment même un enfant de 10 ans qui détient sans doute le record à cet égard, car il a fait sa première évasion du domicile paternel à 2 ans et demi. Non mais où va le monde, mais imaginez. Voilà, donc les fugues de Rousseau, alors c'est toujours une citation, envisagées dans leur ensemble, peuvent être divisées en deux catégories distinctes. Les unes sont des fugues purement impulsives, la manifestation de son instabilité constitutionnelle, de son besoin inné de déplacement et de marche. Les autres, bien que favorisées aussi par cette disposition congénitale, sont les fugues d'origine idéative, relevant directement d'un déterminisme délirant.
Il y a Chopin aussi.
Ah oui, il marchait aussi. Non mais décidément. Oh là là. Et alors, certains auteurs estiment, c'est toujours une citation, que l'état de satisfaction durant la fugue n'existe guère que chez les obsédés, où elle représente la détente euphorique consécutive à l'angoisse de la lutte intérieure. C'est pour ça qu'on marche, en fait. Cela est loin d'être la règle. Des dromomanes obsédés peuvent parfaitement être inquiets, préoccupés durant leur fugue. Par contre, beaucoup de dromomanes non obsédés éprouvent plus ou moins de joie au cours de leur accès. Voilà. Et chez les instables constitutionnels que j'ai spécialement en vue ici, cette joie traduit, alors là, attention, la satisfaction donnée aux besoins impérieux, instinctifs d'action, de déplacement, de marche. Chez la plupart, elle exprime aussi l'apaisement d'un autre besoin irrésistible, fréquemment coexistant, celui de l'indépendance, de la vie libre, sans obligation, sans soumission, sans travail forcé et réglé, sans contrainte et sans frein, qui est évidemment une pathologie grave qu'on doit traiter.
On reçoit un témoignage d'une auditrice qui nous demande qu'elle ne comprend pas pourquoi ce choix de nom de La République En Marche.
Je crois qu'ils vont devoir changer ça. De toute façon, Macron l'a dit pendant son discours, cette situation remet, tout le monde doit se remettre en question, moi le premier. Donc j'imagine qu'il ne marche plus.
La République dromomane.
On va lui casser les jambes, il ne marchera plus jamais.
Qui met en scène deux trajectoires de vie cultivées dans le terreau des normes genrées de la société hétéropatriarcale occidentale. Les clichés utilisés appuient volontairement sur la dualité sexuée que le patriarcat instaure en considérant le genre comme une caractéristique sociale émanant d'une essence, d'une soi-disant nature féminine ou masculine qui nous déterminerait dès la naissance, ne laissant aucune place à la libre construction des individus, et stigmatisant ainsi celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans sa norme hétéro-cisexuelle et sexiste. L'intention du texte qui suit est bien de s'attaquer au patriarcat, au sexisme, à la transphobie et à l'homophobie en dénonçant quelques-unes de leurs facettes classiques. Pour cela, chaque rime est posée pour être déconstruite, et le texte entier ne demande qu'à brûler.
Il était une fois un homme, une femme, la trajectoire de deux enfants d'une société patriarcale. Une histoire de genre, de construction sociale à démolir sans attendre pour un changement radical. Il était une fois un homme, une femme, la trajectoire de deux enfants d'une société patriarcale. Une histoire de genre, de construction sociale à démolir sans attendre pour un changement radical. Encore petit garçon, on lui a demandé à tort d'être un gagnant, un leader. On lui a dit qu'il était fort, brave et courageux, vêtu de bleu, fou dans ses peurs, ravalant ses pleurs, car un homme doit mettre en veille son cœur. Il doit maîtriser son corps, être insensible à la douleur, et ainsi maîtriser le sort de ceux qui montrent de la douceur. On lui a dit d'aimer le foot, la mécanique, d'être bricoleur, viril coûte que coûte, dominant et prédateur. Déjà petite fille, on lui a dit d'être docile, soumise et gentille. On lui a dit qu'elle était fragile, faible et malhabile, car habillée de robes et de ballerines, habituée depuis la tétine à la Barbie belle et fine, à la poterie de cuisine, à la pratique du zen, pour traiter à la racine son hystérie et son zèle, comme dans les magazines, faire d'elle une demoiselle souriante et féminine, à la fois sensible et charnelle. Il était une fois un homme, une femme, la trajectoire de deux enfants d'une société patriarcale. Une histoire de genre, de construction sociale à démolir sans attendre pour un changement radical. Il était une fois un homme, une femme, la trajectoire de deux enfants d'une société patriarcale. Une histoire de genre, de construction sociale à démolir sans attendre pour un changement radical. Adolescent inconscient, il est devenu condescendant quand on lui a dit qu'il descendait de lignes d'hommes, considérant que l'humanité avançait sous un viril ascendant, que la puissance et le pouvoir émanaient du masculin sang. Il est né dans le rang des gars, il a dû générer tant d'ego pour affirmer je crains des gains, prouver qu'il avait le cran des grands malgré les collatéraux des gars. Il verrouilla son cœur aux autres pour passer dans le camp gagnant, il intégra le clan des hommes. Il jouait le beau galant, le séducteur, dans le rôle du don Juan. Il se sentait supérieur, protecteur de ses conquêtes, de ses potes, de ses sœurs, dominateur, usurpateur d'autonomie et d'honneur. On lui a dit qu'on ne frappe pas les femmes même avec des fleurs, alors il condamnait les violences et s'érigeait en défenseur. Mais le cercle vicieux subtil des mécanismes psychiques a fait de lui le serviteur de patriarcal injustice. Adolescente, on lui a appris à l'école que les colons de son monde étaient tous des bonhommes. Une histoire écrite par les hommes, faite
pour les hommes, dominés par de grands hommes, maîtres du temps et des dogmes. En somme, ces références c'était les hommes devant le trône patriarcal, la révérence était de somme. Mais l'infériorité des femmes n'est qu'une construction sociale, et ceux qui profitent de la fable sont les dominants, les mâles. Tant bien que mal, elle découvrit son corps à travers les codes, les stéréotypes de genre, l'esthétique comme mentor, la dictature des formes maquillées, les sépulées aux clichés de la femme conforme. Sur le bûcher de la norme, on a brûlé son intimité, réduit sa sexualité aux cendres de la docilité, censée satisfaire les désirs de la virilité. Sans le vouloir, il consentit au viol de son intégrité. Il était une fois un homme, une femme, la trajectoire de deux enfants d'une société patriarcale, une histoire de genre, une construction sociale à démolir sans attendre pour un changement radical. Il était une fois un homme, une femme, la trajectoire de deux enfants, une société patriarcale, une histoire de genre, de construction sociale, à démolir sans attendre pour un changement radical. À l'âge adulte, il questionna le modèle, refusant la morale de la société moderne. Il vantait l'autonomie affective, la liberté sexuelle, mais très vite il fut rattrapé par le couple traditionnel. À l'entrée du tunnel, déjà se dessinait sa tutelle. L'aveuglement était total, car leur amour passionnel, les œillères furent fatales. L'aliénation sans appel, pour garder le contrôle, il lui fit jurer d'être fidèle. Il se disait anarchiste, anti-autoritaire, guerrier antifasciste, révolutionnaire. Pour lui, les féministes étaient des réactionnaires, lesbiennes, séparatistes, communautariste, voire sectaire. Qui se disait antisexiste, trouvait inconcevable que les femmes s'organisent seules et s'en prennent à son grade, incapable de remettre en question sa position de mal. Il prenait garde bien mettre à l'écart du débat sa compagne. Puis ils ont eu des mômes, car c'était le moment de mimer leurs parents, fonder un foyer sécurisant. Comme tout leur entourage, ils achetèrent un appartement avec un crédit bancaire remboursable sur 20 ans. Ils avaient besoin d'argent, alors lui travaillait sans relâche. Un bon père de famille, il devait se tuer à la tâche. Elle s'occupait des enfants, de la cuisine, du ménage, des responsabilités, il trouvait normal de l'aménager, légitime de la manager. Qu'elle baisse les yeux quand il se fâche, et la violence conjugale, c'est dans les baffes comme dans la tchatche. C'était le pire des matchs, au garfalocrate sans l'afficher. Il coachait ses gosses afin qu'ils suivent sa marche. À sa majorité, elle voulut vivre la liberté, détruire l'autorité qui a désenchanté sa puberté, tournant le dos au passé. À ce jour où elle a avorté, sans aucun soutien des proches, le fardeau fut lourd à porter. Ses cicatrices, elle les a cachées, ses traumatismes, elle a voulu les bannir de leur emprise, se détacher. Dans une crise, elle a brûlé ses barres. Voulant s'émanciper, elle se mise en quête d'intensité. Dans les milieux militants, elle mit tout son temps sans hésiter. Face à la nécessité de briller, d'être estimée dans sa cécité. Les rapports de pouvoir, elle n'a pas pu les esquiver. Les mêmes schémas se reproduisent, et malgré les belles idées, oppression autogérée, domination spontanée. Elle trouve un beau parti, genre le mec important. Elles se sont fait le pari de l'amour libre, ce qui lui importait tant. Mais même à bout portant, son sexisme bien portant put être dissimulé, il était si éloquent. Et pourtant, sans s'en rendre compte, elle prit place dans la farce, s'efforçant de ne pas trop s'effacer en suivant sa trace. Elle perdait la face, car en public il menait la danse, et le soutenir dans ses angoisses faisait partie de la transe. Elle s'était partie pour une vie dans l'ombre de son couple, on l'appelait la copine de Macha, voire on ne l'appelait pas du tout. Elle était son objet, son atout, sa moitié surveillée d'un œil jaloux, posant les jalons d'un jeu abject d'une vie à genoux. Les mécanismes du jeune âge se sont réenclenchés. Bientôt mère de famille est toujours encline à s'incliner, dépossédée de son corps, de ses choix, de sa destinée. Femme au foyer, c'est ce à quoi elle a été formée.
Possède ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elle forme l'esprit tout autant que le corps, puisqu'elle contrôle toute la production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. C'est la raison pour laquelle nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment. De la même manière que nous devons détruire les sexes en tant que catégorie sociologique si nous voulons commencer à exister.
Mosca, histoire de genre, et tout de suite on retrouve les infos.
La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce?
On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs.
À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
Je pense, d'après les symptômes présents, pouvoir diagnostiquer chez nos patients une infochronique.
Infochronique.
Alors, je vais vous redonner une petite info donc, sur les incendies à Tchernobyl. Donc, je vais vous lire en fait le rapport de la CRIRAD, donc la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Donc, c'est un communiqué du 17 avril. Du coup, c'est hier. Hein. Voilà. Alors, la situation est à nouveau préoccupante. Hier, la situation s'est à nouveau dégradée en Ukraine. Sous l'action conjuguée de la pluie et des équipes de pompiers, les foyers d'incendie avaient été fortement réduits. Des vents très violents ont ensuite réactivé toute une série d'incendies dans des secteurs forestiers très contaminés par les retombées de Tchernobyl. Deux foyers ont également été réactivés à proximité de la centrale de Tchernobyl, l'un à moins de 2 km au sud du sarcophage, l'autre à un peu plus de 3 km au sud-ouest. Les vents ont soufflé en tempête, emportant les cendres issues de la combustion des arbres et des litières contaminées. Des images assez spectaculaires montrent les niveaux d'empoussièrement de l'air, que ce soit à Kiev ou dans les territoires contaminés qui viennent de subir les incendies. Le professeur Yuri Badajewski alerte sur la situation de certains villages, et notamment de Radinka, situé à environ 33 km au sud-ouest de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il demande des mesures de protection urgentes pour la population et notamment l'évacuation des enfants. Voilà, donc la CRIRAD continue à surveiller à Montélimar. Pour l'instant, tout va bien. Mais ils s'attendent à ce que ces fameux nuages, arrivent par ici. Voilà. Donc ça, c'était l'info de Tchernobyl. Donc ça continue. Voilà, ensuite une petite info dans les journaux sur les services secrets. Comme je disais, non vérifiable parce que c'est les services secrets. De renseignement. Alors, les services de renseignement craignent une radicalisation de la contestation post-confinement. Attends, parce que si j'ai devant les yeux, je vois plus. Donc. Selon des notes confidentielles du renseignement territorial, le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s'exprimer, mais la colère ne faiblit pas. Les services de renseignement français s'inquiètent des risques de passage à l'acte de groupuscules radicaux à la sortie du confinement, selon des notes confidentielles sur le suivi de l'impact du Covid-19 en France, rapportées dans plusieurs médias. Lundi soir, Emmanuel Macron a prolongé le confinement jusqu'au 11 mai, évoquant un déconfinement progressif conditionné à l'état de l'épidémie de coronavirus. Pour les agents du Service central de renseignement territorial, SCRT, ce que certains collectifs nomment désormais le jour d'après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. Le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s'exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de la crise très critiquée nourrit la contestation. Ultra-gauche et ultra-droite, fortement surveillés. Sur les réseaux sociaux, les messages de ces groupes sont scrutés, analysés. Les notes du SCRT évoquent l'exploitation par des groupuscules de la mouvance autonome de la détresse du milieu hospitalier. Ils appelleraient ainsi à une transversalité des luttes qui associerait gilets jaunes et blouses blanches. Des appels à manifester post-confinement circulent déjà sur Internet. Selon la police, du côté de l'ultra-gauche, les modalités du confinement et le renforcement des contrôles de police exaspèrent notamment. Un site militant radical affirme que la police représente une menace plus grande que le virus lui-même et assène que le confinement est utilisé pour harceler, humilier et parfois tuer ceux identifiés à risque pour le pouvoir, les habitants des zones pauvres. Côté ultra-droite, la contestation séduit aussi. L'ultra-droite critique la politique anxiogène qui est menée depuis le début de la crise par des technocrates de l'État visant, selon elle, à culpabiliser et à manipuler les Français. Les agents ont notamment relevé des écrits appelant ouvertement à la révolte violente. D'un autre côté, l'ultra-gauche interprète le confinement comme la mainmise de l'État et un supposé totalitarisme. De l'autre, l'ultra-droite nourrit fantasmes et théories du complot sur l'origine de la crise. Selon le SCRT, les syndicats traditionnels pourraient également être séduits par le concept du jour d'après. Pour eux, la pandémie et la crise qui l'accompagne démontrent les limites du néolibéralisme où seule la logique financière prime. Les retombées économiques de cette crise dramatique pour certains pourraient faire de nouveaux adeptes. Voilà, donc ils sont un peu sur le qui-vive bizarrement. Ils ont l'impression que les gens ne sont pas contents. Voilà. Et donc, comme les gens ne sont pas contents, il y a des appels, ce dernier truc, je trouvais ça rigolo, des gens qui disent que puisqu'on va être déconfinés le 11 mai, qu'on nous donne l'heure et l'endroit et le trajet de la manif. En fait. Voilà. Voilà, c'est fini.
Est-ce que c'est les citations des renseignements c'est territoriaux les, ouais. C'est une citation du rapport
Ah ouais, ouais. C'est okay. Leurs citations qui sont
lues. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Si donc, on arrive à...
Qu'ils sont ouais, à fouiller, mais franchement, il n'y a pas de site. J'ai essayé de trouver un site des renseignements spéciaux. Ils n'en ont pas.
Ils n'ont pas un compte Twitter non, et ils ne sont pas sur Facebook.
Je sais pas, mais en tout cas, il faut les appeler.
Ah, en tout cas, ils sont en train de scruter les messages sur les réseaux sociaux.
Voilà. Et je pense qu'il faut... Voilà, je ne sais pas comment on a accès à vraiment tous leurs communiqués, etc. Bon, je n'ai pas encore beaucoup cherché. Ça doit se trouver, hein, mais je ne sais pas comment.
Ok. Voilà.
Peut-être au ministère...
C'est très secret.
Au ministère de la discipline et du contrôle social.
Peut-être, sûrement. On va chercher.
Et t'as retrouvé la source de cet article ?
Alors ça, c'était publié sur. Alors j'ai pas bien compris parce que c'est marqué c'est le Nouvel Obs et en même temps c'est marqué au-dessus Courrier International. Alors je sais pas si c'est un truc en.
Ok.
Et qui ne paraît qu'à l'étranger.
Et ça a été publié, je crois le 14, un truc comme ça, il y a 4 jours.
Voilà. Ok. D'accord. Bon, ce sera intéressant de fouiller, ouais.
Ça sent pas le cramé là?
Non. Ah oui.
Tu sens pas cette odeur? Putain, ça vient d'où?
Ah bah c'est peut-être. C'est peut-être les voisines qui ont oublié un truc sur le feu là. Je sais pas.
Oh merde, elles doivent être au jardin. Je vais y aller.
Ouais, elles sont pas. Non. T'es sûr, attends, il faut remplir.
Ça brûle là, mais pas.
Non, attends, il faut une attestation. On va en trouver, putain, y'a plus d'encre.
Attends, tu veux qu'on attende que la baraque d'à côté de toi?
Attends, sinon on peut l'écrire sur une feuille.
Mais laisse tomber, mais qu'est-ce que tu fais là?
Mais il faut l'écrire, tu vas pas te prendre une.
Salut!
Salut!
Bah, tu vois, qu'est-ce qui vous arrive?
Bah, y'a le feu, je pense, y'a le feu chez les voisines.
Non, mais vous vous rappelez pas. C'est l'usine d'à côté qui vient de réouvrir, c'est ça l'odeur.
Et nous retrouverons les jours heureux.